Fi.fr.
Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, omanyi kobena.
It's okay. You know, it's okay.
...1967-2007, depuis 40 ans, la petite ville de Montreux en Suisse rythme le quotidien des amateurs de musique. Chaque été, début juillet, le Montreux Jazz Festival réunit les meilleurs instrumentistes du monde et l'affiche ne cesse de scintiller. En 15 jours, du 6 juillet au 21 juillet prochain, Claude Nops, l'initiateur de ce rendez-vous annuel, accueillera plus d'une centaine d'artistes, dont Youssou N'Dour, George Benson et Al Jarreau, Sly and the Family Stone, Van Morrison, Solomon Burke, Dr. John, Booker T and the MGs ou Jimmy Cliff, mais au-delà de ce programme de choix, Montreux, c'est une histoire, une épopée que nous allons vous conter grâce au regard croisé de Madame Stéphanie Aloysia Moretti et Monsieur Jean-Pierre Leloir, tous deux acteurs et témoins des grandes heures du Montreux Jazz Festival. Soyez les bienvenus.
Bonjour à vous.
Bonjour.
Jean-Pierre Leloir, vous êtes l'un des plus grands photographes de notre temps. Je n'ai pas peur des mots.
1m78.
Exactement. Vous avez eu le bonheur de côtoyer de véritables légendes, de Miles Davis à Frank Zappa. Quel regard portez-vous sur le Montreux Jazz Festival aujourd'hui ?
À Montreux a toujours été pour moi assez fascinant de par la manière dont c'était construit. C'était la programmation, c'était les relations de Claude, c'était sa longue quête de toute l'année aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, d'aller trouver l'orchestre qui pourra présenter l'année suivante. Pour moi, Montreux a toujours été un creuset européen, puisque chaque année, il y a eu peut-être plus avant que maintenant, la Bulgarie, la Hollande, l'Allemagne, l'Angleterre, sur lequel venait s'ajouter un grand nom du jazz des États-Unis. Mais Montreux était familial. Montreux en 67, c'était une ville d'eau, oui, une ville de vacances au bord de l'eau. Il y avait un vieux casino. J'en ignorais les activités nocturnes, mais enfin, il y avait le casino, il y avait une piscine, il y avait des gens sur l'herbe en maillot de bain. Et puis, petit à petit, les choses ont changé. Bon, le casino a malheureusement brûlé, mais c'était très petit. C'était juste 8 jours, je crois, la première année. Et puis, petit à petit, ça a grandi. La grandeur ou la démesure, quelquefois, n'est pas exactement à ma mesure, à moi. On arrive à des excès comme ces murs d'images où les spectateurs ne regardent pas le musicien mais regardent le mur d'écran. Enfin, des espèces d'aberrations dues à l'envergure, à l'importance. Alors, quant à Montreux, est arrivé le moment, je ne sais plus en quelle année, où il y a eu 2 ou 3 lieux.
93.
Bon, j'y étais pas, mais j'aurais été malheureux comme les pierres, parce qu'il aurait fallu quoi jouer le nom du musicien à la roulette pour dire je vais là ou je vais là. Parce que se partager, je dis ça pour moi, passer d'un concert à un autre, c'est passer d'une pièce réfrigérée à une pièce brûlante. Donc je déteste ça. Moi j'aime bien le rituel de la salle de spectacle qui se vide, le tout entrecoupé de musique et d'applaudissements. Donc il y a un moment où la taille de Montreux, mais je trouve que depuis 2-3 ans, ça s'est un peu... Il y a un peu moins de monde.
Est-ce que la complicité avec les musiciens, c'est un atout ou un inconvénient pour un photographe ?
Les musiciens, normalement, ne doivent pas nous voir. Bon, s'ils nous voient, c'est qu'on les gêne. À ce moment-là, on nous priera de sortir. Créer des liens avec un musicien, il faut pour ça qu'on ait le temps et qu'il ait le temps. J'ai eu effectivement la chance de rencontrer des milliers d'artistes. Mais est-ce que je les ai rencontrés ? Non, je les ai croisés. Je les ai croisés et photographiés. Si je les ai croisés, c'est qu'ils m'intéressaient. J'étais amateur de jazz, je le suis toujours, donc j'ai eu la chance, en 50 ans quand même, d'épingler des papillons, et puis de coller mes papillons sur ma collection. Donc, une photo m'évoque quelque chose. Bon, Montreux, c'est 67, bon d'accord, mais c'était pour moi totalement hier. C'est la chance d'avoir ces images qui entretiennent le souvenir. C'est pour ça que je dis que moi, la nostalgie, je connais pas.
Stéphanie Moretti, vous êtes la collaboratrice de Claude Nobs, le fondateur du festival. Est-ce que l'univers des musiciens et celui des médias sont compatibles ?
Mais bien sûr, je crois qu'effectivement ils le sont. Mais ce qui est intéressant par exemple à Montreux, c'est qu'effectivement les musiciens adorent rester là. Ils se disent que voilà, les tournées maintenant prennent des rythmes incroyables, ils ont de moins en moins de jours de congé, mais s'ils peuvent en avoir un, ils choisissent de le faire à Montreux. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que très souvent ils veulent rester un jour ou deux de plus, mais ils ont envie de faire un workshop ou une présentation ou être membre d'un jury pour un de nos concours. Donc ça leur permet d'avoir une atmosphère tout à fait différente et surtout de pas donner juste une conférence de presse comme ils pourraient donner ailleurs. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des conférences de presse classiques, et puis alors, après, il y a tout l'univers de ces fameux workshops où les après-midi, ils ont des cartes blanches, où effectivement, deux ou trois journalistes ou photographes se glissent au milieu du public, et là, du coup, il y a quelque chose qui se passe, qui est un petit peu moins stéréotypé, où les représentants des maisons de disques sont pas là, sont déjà partis, plus encore là, les managers, la même chose. Donc, effectivement, il y a toujours ce lien avec les médias, mais peut-être de manière un peu moins formelle.
Les 18 et 20 juillet prochains auront lieu deux soirées exceptionnelles à Montreux avec Van Morrison et quelques amis. Qu'est-ce qui est prévu exactement ?
Alors exactement, on ne le sait pas parce que vous connaissez tous Van Morrison. C'est toujours la grande question, qu'est-ce qu'il va faire ? Alors il a eu deux cartes blanches, il a décidé de faire une fois Van Morrison and Friends et une fois une soirée plutôt blues. Il nous a donné quelques noms de gens qu'il aimerait bien faire venir. On les a fait venir, mais il a été en contact direct avec eux. Donc concrètement, je crois que comme souvent à Montreux, il faudra attendre la fin de la journée ou la fin du concert ou la fin du festival pour pouvoir faire un programme complet de ce qui s'est réellement passé. On ne va pas s'avancer sur des prévisions.
J'ai tout de même vu que le 20 juillet, il y aurait Dr. John, qu'il y aurait Booker T, The MGs et Solomon Burke qui partageraient peut-être la scène avec Van Morrison.
En fait, ça date de l'année passée, surtout Solomon Burke et Van Morrison, parce qu'ils ont joué les deux sur la scène du casino à un jour d'intervalle, et ils sont venus s'écouter l'un et l'autre. Et bien sûr qu'ils étaient dans les loges, ils étaient très heureux. Donc voilà, une rencontre de l'an passé, où Van Morrison, qui avait d'ailleurs prévu de partir tout de suite après son concert, ce qu'il fait souvent, avait déjà commandé l'hélicoptère, finalement s'est dit, non, je vais rester encore un petit peu à Montreux. Et il est resté deux jours, ce qui est extrêmement rare, mais voilà, il avait l'air d'être heureux. On ne sait pas ce qui va se passer cette année.
Jean-Pierre Leloir, Van Morrison, c'est une personnalité accessible. Vous le connaissez déjà ?
Je l'ai vu à Montreux, d'ailleurs. Je l'ai vu à Montreux, je l'ai photographié à Montreux. Il a une aura, une présence, une... Effectivement, on ne sait pas qui c'est, mais on a envie de savoir. Et le public joue ce jeu. Il est mystérieux. Je crois, et ça je l'ai suffisamment vérifié, que le musicien voit dans le regard du photographe l'intérêt du photographe pour lui-même. C'est-à-dire que si le photographe s'ennuie ou justement est missionné parce qu'il doit faire deux artistes pour la une du journal le lendemain, il fera un peu n'importe quoi, et que l'artiste voit la manière dont vous le regardez. Je pense que j'aurais pas fait Coltrane, par exemple. Si Coltrane n'avait pas lu dans mon regard de l'amour, il m'aurait pas laissé faire ce que j'ai fait. C'est purement épidermique. Enfin, ça marche ou ça marche pas. Alors, si la musique, en plus de ça, moi, me porte... Mon pied, mes oreilles, mes doigts sont pleins de crispations sur le tempo, mais je connais aussi des photographes dont, et je les connais assez bien, dont je n'ai jamais vu le pied bouger. C'est l'envie qui fait que on pourra arriver à faire de bonnes choses, donc justement à l'insu ou au su de l'artiste, sans pour ça monter sur scène, s'asseoir sur ses genoux ou se mettre entre ses mains quand il est au piano. Pour moi, c'était un problème d'envie. C'était le plaisir d'aller voir Muddy Waters, d'aller voir Chuck Berry, d'aller voir Earlines, de voir des rencontres. Muddy Waters avec Bill Wyman, et quand on sait ce que représente Muddy Waters pour un Rolling Stone, là aussi il y avait de l'amour dans le regard de ce jeune freluquet par rapport à cette montagne qu'était Muddy Waters. pour ça qu'il ne faut pas que ça devienne trop grand pour que ça puisse rester famille.
Je vous propose de nous replonger maintenant dans l'histoire de Montreux. Nous sommes le 17 juillet 1982. Coco Taylor est sur la scène du casino de Montreux et elle interprète son plus grand succès, When Dang Doodle. Coco Taylor en 1982 à Montreux. Stéphanie Moretti, vous veillez aux destinées du Montreux Jazz Festival aux côtés de Claude Nobs depuis 17 ans. Est-ce que l'humeur a changé? Est-ce que la machine économique n'égratigne pas la spontanéité et la fraîcheur des artistes?
Là, on peut dire que le monde entier a changé. Je pense que c'est ça, surtout. C'est vrai qu'à l'époque, ça paraît antidéluvien quand je le dis ainsi, mais on avait un fax, on avait un seul ordinateur et c'était tout. Donc tout prenait du temps. Finalement, le résultat, le produit fini n'est pas si différent. On programme toujours 16 jours de concert dans deux salles. Le résultat n'est pas si différent. Par contre, c'est vrai que le bureau permanent est passé de 3 personnes à 10 personnes. Donc, ce qui veut dire vraiment que le monde a changé. Pour arriver au même résultat à première vue ou à vue d'œil, comme ça, pour un néophyte, on fait finalement, on crée beaucoup plus de paperasse, les allers-retours par email sont beaucoup plus rapides. En même temps, ça génère certainement plus d'idées, mais finalement, on fait peut-être plus d'avant et d'arrière sans réellement de bonnes raisons. Donc, effectivement, le monde a changé. C'est vrai aussi que le monde a changé d'un point de vue économique. Il est vrai que jusqu'en 93, nous faisions partie de l'Office du Tourisme. Donc, en fait, le Festival de Jazz de Montreux est une création de l'Office du Tourisme de Montreux, qui était déjà la ville, qui était le lieu où il y avait cette grande foire de la Rose d'Or. Donc, une semaine par année, il y avait des acheteurs qui venaient des quatre coins de la planète, qui venaient dans cette toute petite ville de moins de 10 000 habitants et qui achetaient des émissions de TV. Mais bien sûr que le soir, il n'y avait rien à faire. Donc, Lonops, qui à cette époque-là, après son apprentissage de cuisinier, a décidé de faire un apprentissage de comptable. Il était engagé en tant que comptable à l'Office du Tourisme. Et son patron lui a dit, mais il faut faire quelque chose avec tous ces gens qui sont là, qui viennent de Londres, qui viennent de grandes villes, qui n'ont rien à faire le soir. Donc, ils ont décidé d'organiser quelques concerts. Donc, effectivement, de 67 à 93, nous étions un département de l'Office du Tourisme, ce qui veut aussi dire que nous n'avions pas de préoccupations comptables, budgétaires et ce genre de choses. La Suisse, contrairement à la France, c'est un terrible pays parce qu'il n'y a pas de ministère de la Culture. Donc, il n'y a pas de budget de la Culture. Et bien sûr qu'il y a uniquement du sponsoring privé qui peut fonctionner. Donc, c'est-à-dire qu'on est passé d'une structure où nous faisions partie d'un office du tourisme, où là, effectivement, il y avait des subventions plutôt d'ordre touriste. Mais après, on est arrivé à une fondation qui ne pouvait plus être financée par un budget culturel quelconque. Donc, ce qui veut dire qu'il a fallu trouver des moyens d'être rentable assez rapidement.
Et puis, la grosse évolution depuis 1967, depuis 40 ans, c'est l'image. L'image des artistes, ils y tiennent absolument. Tout est question d'image aujourd'hui.
Bien sûr. Ah oui, c'est clair. D'ailleurs, le seul problème, c'est qu'effectivement, à l'époque, un artiste signait un contrat de 2 pages maximum pour donner un concert, qu'il soit filmé ou enregistré, et finalement, ça n'intéressait personne. La plupart des artistes, bien sûr, sont décédés. On n'a pas réellement exploité ce genre de choses, à moins de mettre sur pied une procédure incroyable pour pouvoir sortir des DVD, ce que la compagnie Eagle commence à faire, donc qui est distribué en France par Naïve notamment. Donc on est en train de sortir ça de nos archives. Par contre, alors maintenant, c'est tout à fait différent. On a des contrats qui font à peu près 17 pages. Et quand on imagine que c'est 17 pages, finalement, il n'y a toujours que 2 pages pour le concert. Et les 15 autres, c'est tout le reste. Justement, qu'est-ce qu'on va faire de ce fameux footage et qu'est-ce qui va se passer avec ces enregistrements?
Plus les années passent, plus le festival joue l'éclectisme de Jeff Beck à Laurent Garnier cette année. C'est une réelle volonté de Claude Nobs ou une obligation commerciale pour que le festival perdure?
Non, alors ça, je crois que c'est vraiment Claude. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a toujours un peu nos détracteurs, parce que le festival continue envers et contre tout à s'appeler Festival de Jazz de Montreux. Donc, effectivement, je crois que c'est tout à fait Claude Naps. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'année passée, il a décidé d'avoir Kraftwerk. Parce que voilà, pour lui, Kraftwerk, c'est quelque chose, c'est fondateur. Ou Pierre-Henri, il y a quelques années aussi. Donc, effectivement, Claude Naps pense quand même toujours que le jazz est la racine de plein d'autres choses. Donc, effectivement, peut-être qu'il n'a pas un lien particulier avec Laurent Garnier maintenant. En même temps, il pense que c'est absolument nécessaire de présenter ça et que le festival est de plus en plus le reflet du jazz comme ouverture à plein de mouvements musicaux.
Il est le reflet de l'ère du temps.
Mais je crois que ce grief qui peut être fait, ce n'est plus que du jazz, etc., c'est valable pour tous les festivals, que ce soit Nice, que ce soit Jean-Lépine. C'est fini, il ne faut pas être sectaire. Je crois que c'est un festival de musique.
De musique de qualité en général.
Vous le saurez à l'arrivée, vous ne savez pas au départ.
Ce n'est pas faux.
Mais ce qu'il dit par exemple toujours, c'est qu'effectivement pour lui, la musique c'est un grand bouquet de fleurs et qu'il faut choisir les choses. Et là, il a fait une définition à un certain moment, c'était que Montreux établit que le jazz est un nom générique, celui de toutes les musiques exaltantes, rythmées et enivrantes. À partir de ce genre de définition, on peut tout à fait penser que il y a encore beaucoup de styles musicaux qui peuvent faire leur apparition à Montreux.
L'un des grands moments fut la prestation de Miles Davis en juillet 1991, interprétant son répertoire des années 50 avec le Gil Evans Orchestra dirigé par Quincy Jones. Je vous propose de revivre ce moment et on en parle juste après. Summertime, Miles Davis en 1991, dernier concert à Montreux puisqu'il nous quittera deux mois plus tard. Stéphanie Moretti, quel souvenir garderez-vous de cette soirée?
Oh, fantastique. C'était très très beau. Mais je crois que, alors bien sûr que c'était très très beau le concert, c'était dans cette toute petite salle du casino, minuscule, overcrowded on dira, donc débordante, où tout le monde fumait, tout le monde buvait, enfin, c'était merveilleux, c'était incroyable. Tout le monde avait tout à fait l'impression de vivre un moment d'exception. Alors c'est clair que c'est pas comme Miles à Paris. Paris, c'est une grande ville. Montreux, c'est assez en minuscule. Donc, c'est clair que quand il est là et qu'il dit qu'il veut absolument une voiture de sport et puis pas de n'importe quelle couleur et qu'il parade dans la ville, ça laisse son empreinte.
Jean-Pierre Leloir, Stéphanie Aloisia Moretti, merci beaucoup d'être passé sur RFI. Bon festival et puis saluer chaleureusement Claude Naps de notre part.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Nous refermons avec précaution l'album photo de ce grand rendez-vous estival. On se retrouve dans 8 jours. D'ici là, passez une bonne semaine. Tout de suite, le journal.